Fondamentalement, aujourd'hui, par rapport à tous ces enjeux technologiques, ce qu'il faut vraiment planter comme graine dans l'ADN des entreprises, c'est la graine de l'innovation. Et l'innovation, on ne génère pas de l'innovation entre pairs, des gens qui sont comme des clones, qui se ressemblent toutes et tous.
Hello et bienvenue au show Mentor Dialogue, épisode numéro 94. Aujourd'hui, nous sommes le 30 juin 2019 et l'entretien est avec Mérité Bulgeau. Mérité est chef de digital et de l'expérience client chez BPCE Eurotitre, ayant exercé la même fonction précédemment chez Natixis. Mérité, qui est polyglotte, biculturelle et titulaire de deux diplômes dans l'histoire et l'informatique, est également présidente de Digital Ladies and Allies, caractérisée d'un do-tank pour amener plus de diversité dans le digital. Mérité est fréquemment citée comme étant une des personnes les plus influentes dans le digital, dans la fintech, et tout récemment numéro 1 parmi les CDO en France selon Brandwatch. Dans cet entretien avec Mérité, nous discutons de comment amener la transformation digitale, quelles seraient les technologies d'avenir, le French Touch dans le digital et plus encore. Bonjour et bienvenue sur mon podcast Mentor Dialogue en français, où on parle des marques, des nouvelles technologies et comment les entreprises doivent s'adapter à la transformation digitale. Je suis Mentor Dial, votre compère pour ce podcast. Vous pourrez trouver les show notes sur mon site mentordial.fr, où vous aurez tous les liens et références cités lors de cet entretien. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Mérité Bulgeau, plaisir de t'avoir sur mon show. On s'est rencontrés une fois, je t'ai suivi, je vois ce que tu fais. Tu es une femme influente en France. Je voudrais que tu nous présentes qui tu es.
Oui, avec plaisir. Donc, effectivement, Mérité, Mérette, on a le droit de prononcer mon prénom presque comme on veut. En général, on est un peu gêné. Moi, ça m'amuse quelque part parce que moi, j'ai aucun problème avec ça. J'ai plusieurs identités quelque part. J'ai plusieurs existences. C'est ça qui est intéressant. Puisque je suis française et je suis norvégienne. En réalité, je n'ai pas la nationalité française. Je suis une vraie norvégienne. Mais même quand mes amis viennent en Norvège pour la première fois avec moi, ils voient bien que je suis deux personnes en fait. Je suis norvégienne. Et je suis aussi française. En France, ça fait presque bientôt 30 ans quand même que je vis dans ce beau pays. Donc, c'est aussi la preuve que j'aime ce pays. Je me suis mariée avec un Français. J'ai des enfants, des grands garçons maintenant, hein, qui adorent aussi les deux pays. Et heureusement, parce que je pense que ça leur permet aussi de retrouver ce qui est de mieux dans leurs deux cultures.
Pareil, moi aussi, je suis au moins biculturel et je trouve que c'est une richesse. Alors, nous sommes installés à l'est de Paris, dans le 13e arrondissement, dans le WeWorks. Et je voudrais que tu nous dises ce que tu fais, parce que là, tu as plusieurs casquettes par ailleurs, plusieurs identités et plusieurs casquettes. Mais explique-nous ce que tu fais dans la journée.
Oui, donc effectivement, après la personne ou les personnes, Mérette, etc., je travaille aussi. Et donc, je travaille au sein d'un grand groupe bancaire qui s'appelle BPCE, où je suis en charge dans une des filiales, de la transformation client et de de la transformation digitale, qui va peut-être passer aussi par la transformation des clients d'ailleurs, et de l'amélioration de l'expérience client. Et donc, pour y arriver, nous travaillons sur plusieurs axes avec mes équipes, aussi bien sur la partie vraiment expérience client au sens très digital, mais pas que. Nous travaillons également sur toute notre organisation interne. Et enfin, et c'est presque le plus important, notre transformation à tous. Et donc notre culture qui est en train d'évoluer, nos pratiques de travail. C'est pour ça qu'en fait, en ce moment, il y a une de mes équipes qui est installée ici, chez WeWork, C'était une opportunité qui nous a été offerte de pouvoir les installer ici, dans ce monde quand même largement dominé par une présence de start-up, de petites entreprises. Donc voilà, les équipes sont là pour travailler en particulier sur l'amélioration de nos parcours clients.
Le cadre est magnifique. Alors, je voudrais commencer par le digital, puisque maintenant, ça fait bien des années que le digital existe. S'occuper de digital, comment est-ce que tu définis le digital pour ton métier? Parce que finalement, c'est vaste.
Alors, je pense que tu as raison d'insister sur ce mot de digital. Hein, parce que de mon temps, de façon de parler, quand je vais commencer dans l'industrie bancaire, moi, j'ai commencé dans l'informatique.
Ah oui.
D'accord? L'informatique, c'est aussi du digital quelque part, hein, mais ce n'était pas un mot qu'on utilisait. Je pense que, enfin, pour moi, et que ce soit dans l'industrie bancaire ou d'autres industries ou d'autres commerces à la rigueur, ou notre vie de tous les jours, le digital, la différence, c'est ce que nous avons vécu ces dernières années avec l'arrivée évidemment d'Internet, qui a permis de distribuer les pouvoirs entre les marques et les clients. Qui aujourd'hui a ses choix au bout de ses doigts. Le digital, au bout de ses doigts, il peut choisir très facilement. Aujourd'hui, on pourrait parler du swipe. Hein. On parlait des clics avant avec les souris, mais on n'utilise même plus la souris. Tout passe par le doigt. Et moi, j'aime bien en fait attacher ce digital par ce pouvoir que nous avons au bout de nos doigts, tous, en tant que consommateurs et en tant que citoyens. Et puis, au-delà de ça, ceci, ça implique forcément des évolutions de notre approche vis-à-vis du client, mais aussi dans notre approche vis-à-vis des collaborateurs, des salariés, en fait.
Alors, quand tu es en train de travailler sur le digital, puisque tu es historienne aussi, tu aimes bien regarder en arrière, mais aujourd'hui, quand on travaille sur l'expérience client, il y a beaucoup de choix de digital, enfin d'outils, de systèmes. Et l'étendue, en fait, est-ce qu'il y a une limite? Comment est-ce que tu limites? Comment est-ce que tu regardes les choix d'outils et de digital, on va dire, pour améliorer l'expérience?
En fait, la seule chose qui compte, c'est que le client vous aime. C'est la seule chose qui compte. Donc, il ne faut pas commencer par l'outil. Il faut déjà commencer par comprendre qui c'est cette personne, ces personnes. Il y a plein de gens, il y a plein de personnes. Mmh. Les banques, enfin, depuis quelques années, ils avaient un peu oublié qu'ils avaient perdu le monopole du cœur du client et que le client, c'était une personne. C'est comme le bébé de Dolbo, hein. Dolto, pardon, c'était une personne. Donc, il faut les rencontrer en chair et en os. C'est ce que nous avons énormément développé dans ma filiale, ce que j'ai proposé comme démarche, déjà pour comprendre réellement les motivations. J'ai appelé vraiment les ateliers empathie pour réellement comprendre ses désirs et ses motivations profondes. Parce que la banque, finalement, elle intervient. Soit elle doit être invisible dans le système de paiement, etc. Soit elle doit être présente en coach bienveillant à des moments clés de la vie du client. C'est l'achat d'un grand appartement, c'est un investissement. C'est là qu'il doit être là. Et je pense que le digital aujourd'hui, il doit répondre d'une part. Enfin, il y a un impératif, c'est surtout pas approcher vos projets de digitalisation par voulant mettre une couche digitale sur vos processus, vos services actuels. Il faut vraiment retrouver le lien avec le client, comprendre les moments de vraies émotions. Hein, c'est ça, quand on parle d'expérience client, ce qu'il faut comprendre, c'est la somme des émotions des clients, du client, à différents moments clés et de points de contact avec la banque. Et d'autant plus, il ne faut pas le perdre à ces moments phares dans sa vie.
Comme j'ai travaillé dans l'entreprise, je sais que souvent, l'émotion, ce n'est pas forcément la chose la plus attendue ou voulue. Quand on est dans une réunion, enfin, on peut se fâcher et tout. Mais en gros, l'émotion, c'est loin d'être considéré. On va plutôt sur la rationnelle, la performance, la perfection. Et cette histoire, donc, émotion est difficile déjà en entreprise. Comment est-ce qu'on peut effacer, rendre ce filtre bien neutre afin de vraiment comprendre de manière nouvelle? Parce qu'en fait, les outils ont changé les choses. On a oublié le client. Quand on va aller, on peut amener aussi des filtres, des a priori, Et donc, tu es là, tu es en train d'essayer d'amener une vraie compréhension dans la peau du client. Comment est-ce qu'on dégage tous les a priori, les contraintes qu'on a, les arrière-pensées qui font qu'on on brouille les pistes.
Tu as vraiment raison d'insister là-dessus parce que ça va vous demander à développer des vraies nouvelles compétences aussi. Il y a peut-être des gens qui sont plus ou moins à l'aise avec la notion d'émotion, ça c'est vrai, et en particulier dans l'entreprise. C'est comme dans la vie, il y a aussi des gens qui sont plus ou moins à l'aise par rapport à l'amour. Moi, j'aime bien parler de l'amour avec le client, en fait. Ça peut paraître paradoxal, mais en fait, ça n'allait pas du tout, parce que le sujet est vraiment là aujourd'hui. Il y a trop d'acteurs sur le marché. Si on n'est pas attaché à obtenir cette relation vraiment proche et très positive, fondée sur une forme d'amour de la part du client, parce que c'est sa fidélité va être là. Alors, quand tu vas l'approcher au début, en fait, il faut se transformer. Il faut commencer par soi-même. Il faut vraiment enlever toute cette couche un peu qu'on peut porter en soi. Tout ça, il faut arriver à se l'enlever. Et donc, il faut forcément aussi passer par des étapes de formation que j'ai suivies moi-même, que mes équipes ont suivies, les équipes qui étaient particulièrement en relation avec ça. Il y a des gens qui se spécialisent. Et puis, après, moi, j'aime bien monter des équipes mixtes, en fait, où on intègre dans nos séances comme ça, que j'ai appelées des séances vraiment d'empathie, hein. Moi, je fais appel à des experts que je mêle avec mes propres salariés, celles qui sont vraiment dédiées à cette écoute et co-création empathie client, et parfois aussi d'autres. Un informaticien, par exemple, qui développe vraiment ce que finalement voit le client quand il veut passer une transaction et qui parfois génère forcément de l'émotion. Mais cet informaticien, il peut paraître très loin. Parce qu'il n'est pas seulement qu'il ne peut pas, il l'est, parce qu'il n'a jamais rencontré un vrai client.
Il est resté derrière le...
Voilà. En fait, moi, j'aime bien faire organiser ces ateliers-là en invitant pas mal de personnes à y participer. En tout cas, c'est sûr, c'est qu'une entreprise qui veut se lancer et qui est prête à se lancer dans ce type de démarche, il faut qu'elle se fasse aider. Parce que vous touchez aussi aux êtres de vos salariés.
Ce qui est étonnant, on parle beaucoup de la diversité. Et ne serait-ce que d'avoir quelques personnes d'un point de vue, d'un background différent, ils vont repérer les choses qui sont dites. Et toi, tu dis, non, je n'ai pas vu ça du tout. Et puis, cette confrontation d'idées permet d'éclairer finalement, parce que nul peut être à toute la vérité. Mais en tout cas, oui, je n'ai pas pensé ça, je n'ai pas vu ça. Et souvent, il y a des personnes qui sont beaucoup plus aiguisées pour repérer les émotions, un moment de braquage, un moment de consternation, un petit moment de joie, on se voit un petit clin d'œil, une petite surprise. Pourquoi la surprise ? Et une fois qu'on a une vraie diversité d'opinions, ça permet de le faire. Alors, combien est-ce qu'on doit embarquer le patron là-dedans ? Parce que c'est bien beau d'amener tous les chefs de produits, avoir une équipe de juniors qui sont tout frais, tout naïfs, on va dire, et puis en tout cas, beaucoup de volonté. Est-ce qu'il faut embarquer jusqu'en haut ? Jusqu'où faut-il embarquer ?
Il faut embarquer au plus haut niveau. Et moi, j'ai cette chance d'avoir aussi la confiance de mon patron dans mon métier, qui est en charge de la direction de ce métier-là. D'abord, pour faire confiance avec ce genre de notions qui n'étaient pas monnaie courante. Maintenant, on en parle quand même de plus en plus. Moi, j'ai commencé à en parler en 2015. Donc, c'était à un moment donné, on n'en lisait pas grand-chose, même dans la presse spécialisée, etc. On n'était pas encore là. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui s'est prêté au jeu. Il est venu avec nous, il est très curieux. Et je pense qu'il faut arriver à amener... Faut amener les patrons. Les patrons ou les patronnes, c'est impératif. Il faut que ces gens-là aussi soient, de temps en temps, confrontés comme ça à une situation d'un vrai client. Je veux dire, c'est combien de patrons parfois qui s'enferment un peu dans un tour d'ivoire et qui finalement achètent des études qui sont produites certainement par des prestataires qui savent faire ça, etc. Ok, c'est complémentaire, mais il faut aussi avoir ces moments de contact privilégié. Je ne sais plus quel GAFA. Alors, est-ce que c'est Amazon ? Je crois que sinon, c'est pas Amazon qui, dans leur grand bureau de conseil, il y a une chaise qui est vide. C'est la chaise du client. Je crois quand même qu'elle est d'une autre couleur, comme ça, au moins, on la voit bien.
Qu'est-ce que pense ?
Voilà, qu'est-ce que pensent les clients ? C'est super, parce qu'au moins, on se dit, voilà, visuellement, on voit qu'il faut toujours avoir en tête les clients. Je pense que si ça a été un succès, c'est qu'à mon avis, ils dépassent la chaise vide. De temps en temps, à mon avis, ils sont vraiment en contact avec des vrais gens qui sont aussi, qui sont utilisateurs de services. Je pense que ce n'est pas forcément le monnaie courant au niveau des patrons d'entreprise, que ce soit dans la banque ou ailleurs, en ailleurs. Mais en tout cas, c'est toujours ce que je diffuse. Et heureusement, à mon niveau, j'ai pu progresser sur le sujet en embarquant mon patron. Ouais.
Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'Amazon s'est décrété comme mission d'être la société la plus centrée sur le client de la planète. Voilà, c'est « of Earth ». Enfin, je m'en souviens. Et donc, Bezos en premier. Pour changer les états d'esprit, parce qu'en fait, quand on est sur cette transformation, ce n'est pas l'outil. Bien sûr, c'est drivé par le client. Mais comment est-ce qu'on fait pour changer une culture ? Parce que les cultures, c'est lourd. On le connaît maintenant, on a de la bouteille. On voudrait bien, mais ce n'est pas évident de changer des mœurs, des habitudes, des systèmes de communication, de BCC, de CC sur les emails. On va passer sur du WhatsApp et du Snapchat. Alors, non, pas tout de suite. Comment est-ce qu'on fait, en tout cas progressivement, à amener le changement d'état d'esprit ?
Bah, en fait, moi, j'ai pas mal parlé de l'approche multicanale aussi du salarié, finalement. Je pense que quand j'ai commencé à vraiment prendre à bras le corps la transformation aussi en interne, il y a quelques années, j'étais peut-être un petit peu utopique en disant « Ouais, ça va être vraiment génial, tout le monde va se sentir libéré, tout le monde, ça va exploser, etc. » Bon, en fait, ça ne se passe pas comme ça, parce qu'il faut aussi comprendre que c'est dans des grands groupes comme les nôtres, il y a aussi des personnes qui sont là depuis des années, parce qu'il y a une forme de confort qui leur convient, et why not ? Enfin, il faut l'accepter. Il faut l'accepter surtout parfois, on va te regarder comme un farfelu ou une farfelue, hein, donc ça, il faut déjà être à l'aise avec ça, je pense. Et puis, il faut se dire, voilà, tout le monde ne va pas venir au même rythme. Il faut quand même se faire cette évidence-là. Et c'est, quand je dis multicanal, c'est-à-dire que voilà, il y a le menu, il y a plein de choses dessus. Un peu comme le menu chinois, il y a plein de numéros, machin, etc. Il y a plein de choses. Donc il faut arriver à bien mixer une équipe qui est un petit peu l'équipe un peu en avance, un peu les sentinelles qui vont booster, qui vont tester, qui en ce moment, ils sont ici à WeWork avec moi. Le tout, c'est qu'il ne soit pas complètement coupé du reste du monde. Donc, il faut aussi organiser des moments où on invite un peu sous forme de journée porte ouverte ou voilà, des moments de contact où les uns et les autres, d'autres personnes de l'entreprise peuvent venir regarder, visualiser, etc. Ce que j'ai pu faire, ce que je fais régulièrement, c'est par exemple, régulièrement, je fais aussi appel à l'intelligence collective au-delà de cette équipe, par des challenges d'idéation, par exemple. De temps en temps, on dit, voilà, là, on est en train de travailler sur tel sujet du parcours, etc. Et vous, si vous deviez vous mettre à la place du client à la fin de l'année de 2020, par exemple, sur tel type de parcours, comment tu penses qu'il faudrait faire ? Donc, on fait régulièrement des challenges comme ça. Là aussi, ce n'est pas tous les salariés de l'entreprise qui vont réagir. On va se retrouver aussi un petit peu avec les mêmes. Mais à un moment donné, il faut l'accepter. Parce que moi, je vois quand même, malgré tout, que ça avance et que ça amène une culture. Et je vois aussi à des personnes qui étaient peut-être plus hésitantes, que ce soit au niveau de la direction, au niveau de différentes lignes, des strates managériales, ou que ce soit au niveau des personnes, des salariés. Bah, aujourd'hui, on parle très naturellement du client final dans une entreprise qui était considérée elle-même. Elle se présentait comme ça, comme étant une usine. Il n'y a pas longtemps. Voilà. En tout cas, moi, quand je suis arrivée dans ce métier, on se présentait comme une usine. Ben, nous, on est une usine, on fait du B2B. Mais c'est hyper barbare, comme déjà, comme présentation. Ben, une usine, ben voilà. C'est... Donc, ça veut dire que tout est identique, tout est... Voilà.
Les process.
C'est les process.
Uniformisation.
Bien sûr, c'est hyper important pour les banques aujourd'hui. On est hyper challengé par une couche de réglementation. Donc, il faut être hyper réglé vis-à-vis de tout ce qui est conformité, compliance. Mmh. C'est une obligation. On ne peut pas partir en vrille. On le sait, on est passé par 2008, etc. Donc, il faut bien avoir cette couche-là, avoir des organisations, des points de contrôle, des choses comme ça. Et tous les salariés doivent être hyper conscient de ça. Mais à côté de ça, il faut s'autoriser aussi une forme de liberté qu'on n'avait pas forcément, dont on n'avait pas forcément l'habitude. Et c'est ça qui est intéressant quand, de temps en temps, tu as l'occasion de faire appel à la foule. Voilà, c'est un super révélateur de talent. Même si ces gens-là, ils n'ont pas au quotidien, tous les jours, l'occasion de travailler étroitement dans tes équipes, bah, tu peux faire appel à ces gens-là, tu les repères. Moi, j'ai mon petit vivier, je sais, de temps en temps, à qui on peut, qui est un peu associé à un atelier, à un workshop, pour creuser certains points.
Donc ça s'appelle le réseau, j'ai envie de dire.
Exactement.
Mais tu as remarqué sur ton profil LinkedIn, « I like to be the change I want to be, I want to see combien c'est important pour le la patronne aussi. Et là, ma question est aiguë, c'est, tu es quelqu'un qui pratique, tu fais le digital, tu es animé, tu es présente en ligne, partout. Est-ce que c'est important ou, quel est le rôle qu'un patron devrait jouer là-dessus? Est-ce qu'il doit aussi, ou elle, entreprendre et être digital?
Mais complètement. Moi, je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui prétendre être Chief Digital Officer. On utilise cette terminologie aujourd'hui souvent, hein, CDO. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas avoir cette légitimité si on n'est pas digital, si on ne vit pas digital, si on n'est pas ouvert à l'écosystème. Même au-delà de travailler quelque chose tout de suite en partenariat immédiat et direct avec votre entreprise, avec ton entreprise, mais c'est obligatoire. Tout leader éclairé aujourd'hui, il doit avoir à la fois cette ouverture d'esprit et cette ouverture à l'écosystème. D'autres acteurs, moi je suis l'intime conviction que cette façon dont on avait de considérer les autres entreprises bancaires, là, parce que je parle de la banque, comme des concurrents. Je pense que c'est un peu terminé. Et je pense aussi que dans cet écosystème, bien sûr, on parle des startups, open innovation, etc., mais aussi, il y a d'autres acteurs dont il faut intégrer. Et je pense que c'est ça la richesse. Et je pense que fondamentalement, les entreprises qui survivront demain, c'est ces entreprises dont les dirigeants ont cette capacité d'ouverture et d'ouverture à l'écosystème.
Alors justement, sur l'écosystème, je regarde des entreprises, banques ou pas, on veut être plus agile, on veut être transformé, on veut être centré sur le client. Et donc, il y a plusieurs moyens de faire des expérimentations. Par exemple, d'acheter un petit start-up ou d'intégrer un accélérateur, de délocaliser l'innovation à l'extérieur. Mais le problème, c'est de revenir. Aujourd'hui, pour BPCE en particulier, mais comment est-ce que vous apprivoisez l'innovation, l'inspiration des startups et comment est-ce que vous essayez d'intégrer, travailler avec, pas que la compétition, mais maintenant plutôt les startups, fintech, etc.
Alors, je pense qu'il y a plein de solutions et comme BPCE, c'est un groupe très, très grand et avec plein d'entreprises, il y a plein de solutions différentes en fait. Donc, moi, je vais parler que pour ma partie. Nous, on est plutôt en mode opportuniste, dans le sens où on n'a pas forcément une recherche active pour développer des choses, mais plutôt pour imaginer parfois des bouts de parcours ou des bouts de solutions de petites startups qui peuvent nous proposer des bouts de parcours clients. Je vais prendre un exemple pour le rendre un peu plus concret. En ce moment, nous avons plugué, excusez-moi, c'est une expression un peu à la fois anglaise, voilà. On a imbriqué une solution externe qui est portée par une start-up pour développer l'interaction dans une logique de réassurance du client final. Voilà, donc le client, il est sur son parcours digital. Il fait des opérations. À un moment, il veut de l'autonomie. Parce que ça, à travers nos écoutes clients, on a bien compris, il a besoin d'autonomie. Mais comme je disais tout à l'heure, de temps en temps, il y a des moments où c'est un peu compliqué. Donc là, récemment, c'est un exemple. On a plugué cette solution qui permet donc de générer de l'interaction. Pour l'instant, on fait ça sous mode chat. On a choisi le chat au chatbot, d'ailleurs. C'est-à-dire que derrière le Sankat, c'est des agents. Donc ça, ça peut pas être banal. Pour nous, c'est, enfin, dans le genre, mais ça existe depuis longtemps. Pour nous, c'est pas du tout banal, parce qu'en fait, encore une fois, c'est quand même assez récemment qu'on a développé cette notion de B2C. On peut même appeler, moi, j'aime bien appeler ça de human to human. Parce que ce sont des humains, hein, qui vont se parler à travers un outil. Voilà. Donc ça, c'est un exemple, en fait, finalement. On est opportuniste, on a identifié que cette solution-là, elle est pertinente. Alors pourquoi on a choisi celle-ci ? C'est parce qu'elle était très facile à imbriquer dans notre système. Donc ça, c'est un exemple. Nous, on n'est pas du tout dans la démarche de racheter une start-up pour de résoudre un de nos problèmes. Personnellement, je suis en contact avec pas mal pour m'inspirer de ce qu'ils proposent. Et puis de temps en temps, on en trouve une. On n'est pas forcément seul à la trouver. C'est parfois des démarches groupes, hein, qui nous permet aujourd'hui d'avoir un certain nombre de références. On se dit, bah voilà, on va tester celle-ci. Elle va résoudre un problème de manière très simple et très rapide, plutôt que de développer, enfin, à tour interne, quoi.
Alors, Meret, avec ta position et ta multiculturalité, comment est-ce que tu pourrais qualifier la transformation digitale en France différemment d'autres pays ? Est-ce qu'il y a des choses qui font que c'est différent en France, que ce soit par la loi, par la culture, par la langue ou autre chose, qui fait que il faut trouver un moyen un peu différent, le French Touch ?
Oui, alors moi, je vais surtout comparer avec mon pays, mon d'origine, que je connais assez bien. Je vais régulièrement. J'ai même eu le grand plaisir d'amener des entreprises en voyage et un peu d'études pour rencontrer des entreprises de l'intérieur, dont, y compris des banques. Je pense que si je dois comparer donc les pays nordiques en général, hein, et la France, finalement, dans les pays nordiques, ce sont des pays qui sont basés sur la confiance. La France est peut-être aussi un petit peu au-delà de la France des pays latins. Malheureusement, c'est souvent basé sur la méfiance. La méfiance envers l'État, envers le système. Les institutions, mais parfois aussi dans l'interpersonnel. C'est-à-dire que c'est très souvent, dans le démarrage d'une relation, il y a une défiance. Peut-être pas une méfiance, mais au moins une défiance. Enfin, une petite... Voilà. On ne va pas tout de suite se dévoiler. Ça dépend d'où on vient en France aussi, hein, parce que là, je fais des généralités. Hein. Ouais. Alors que les pays nordiques, ils ont un telle confiance en le système, en l'État, qu'ils n'ont aucun problème à partager leurs données. Ici, on parle beaucoup, beaucoup de Big Brother, on va être surveillé, privacy, voilà. En fait, dans mon pays, Norvège, ça, les personnes ne se posent pas du tout cette question. Les données fiscales, par exemple, à titre individuel, sont du domaine public. Alors, avant, il suffisait de googler une personne. Même avant Google, il suffisait de s'adresser, passer un coup de fil à je ne sais plus quel service de l'État. Tu obtenais tout de suite combien gagnait ton voisin. En fait, tu obtenais les résultats de sa déclaration. Voilà. Et ça posait de problème à personne. Là, la seule différence qu'ils ont développée ces derniers temps, c'est qu'au moins, il faut dire que moi, j'ai fait une demande, moi, voilà, Meret Bejo, je veux savoir combien gagne Minter, voilà. Donc, au moins, il y a la traçabilité.
Donald Trump.
Voilà, Donald Trump. Au moins, il y a la traçabilité que j'ai fait cette demande. Mm-hmm. C'est le petit truc récent. Toujours est-il que, du coup, je vais revenir sur l'industrie bancaire. En fait, ils sont allés très, très loin dans les solutions aujourd'hui qui marchent d'ores et déjà, et d'ailleurs dans la digitalisation de la relation. Il n'y a quasiment plus d'agences bancaires en Norvège quand même. Hein. Et pourtant, ils ont la valeur de trust devant. Et d'une banque à l'autre, en fait, il existe un peu comme l'Estonie, hein, une identité bancaire unique. Ça fait que tu peux d'abord, c'est déjà la réalité en France, et quasiment tout le monde est multibancarisé, mais avec toutes les contraintes. En France, il n'y a aucune, il y a eu qu'une transversalité. Hein. Il y a quelques petites start-up qui ont été malins pour développer des solutions où tu peux avoir la vision agrégée de l'ensemble de tes comptes bancaires. Mais en Norvège,
mais pas pour les banques.
Ça vient. Mais en Norvège, c'est natif. C'est-à-dire que tu as commencé à... Tu as ouvert un compte dans un banque, tu n'as plus besoin de faire tout le checking, check avec la deuxième banque, de toutes tes pièces justificatives, etc. Ce qu'on appelle le Know Your Customer, your KYC, qui est un truc très, très lourd en France. Bon, bref. Et donc, ça a permis... Je t'ai dit tout à l'heure, ça fait presque 30 ans que je vis en France, mais j'ai arrivé en France il y a, on va dire, plus de 25 ans. Il y avait plus... Enfin, moi, j'étais étonnée de voir qu'il y avait des chèques. Mais ça faisait déjà des années que je ne voyais plus de chèques et de chéquiers en Norvège. Tout était déjà
dématérialisé.
C'était déjà les cartes bancaires. Et aujourd'hui, l'espèce disparaît. D'ailleurs, ce n'est même pas la peine de... Bon, là-bas, c'est les couronnes norvégiennes, hein, parce qu'ils ne font pas partie de l'Union. Voilà, ce n'est pas de l'euro. Mais c'est aucun intérêt d'amener des couronnes voilà, là-bas. Donc, c'est extrêmement fluide. C'est la grande différence, mais qui est vraiment basée... Et je pense que c'est vraiment un frein. Je comprends que c'est à la fois une sécurité qu'il nous faut en termes de protection de données, on le comprend bien. Mais en même temps, on se prive aussi de solutions qui facilitent la vie du consommateur, du client. Donc pour moi, c'est la différence majeure. Donc c'est là-bas, les pays nordiques, ils ont toujours été des early adopters pour cette raison-là, parce que c'est très facile. Et aussi parce que, il y a un certain nombre de mois dans l'année où il fait nuit quasiment 24 heures sur 24. Donc je pense que c'est aussi pour faciliter la vie que ces solutions digitales ont été adoptées et développées très vite et avec une étendue d'accès, de Wi-Fi, réseau. Tu as du réseau partout depuis très longtemps, et voilà, c'est vraiment développé pour ça, et ça a été complètement nécessaire. Là, je reviens sur la Norvège. La Norvège, c'est 2500 km de long, hein. Donc c'est très étendu pour 5 millions d'habitants, mais il y a du monde partout, aussi pour surveiller un peu vis-à-vis d'un de nos voisins quand même, donc il y a du monde partout, donc c'est très important d'avoir de l'implantation partout. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Soit on vit dans un petit village complètement isolé, qui était le cas de mes ancêtres il y a fort longtemps. Aujourd'hui, c'est terminé, en fait. On peut vivre dans des petits villages, parce que l'État fait tout pour qu'il y ait du monde partout, mais on est connecté au monde, et on est un early adopter.
Ce que tu vois avec la différence entre la Norvège et la France par rapport à la transformation, ça rend les choses difficiles parce qu'on n'a pas accès à la donnée pour rendre la personnalisation et tout. Question pour toi et dans ta personnalité et dans ton parcours, ce qui m'intéresse et m'a attiré vers toi, c'est le fait que tu es à la fois historienne et informaticienne. Tu as ce mélange, j'ai envie de dire, un peu culturel, enfin artistique quelque part, et enfin humanities et informaticien. Maintenant, je vais te demander d'aller vers le devant, à l'avenir. Quelles sont les technologies qui te font le plus peur ou on va dire, où tu regardes davantage pour aider votre entreprise pour l'avenir qui fait bien, enfin, donc les cyber security, artificial intelligence, toutes ces compagnies là.
Bon, donc comme je suis pas quelqu'un qui a peur en général, hein, ça peut être un défaut aussi, ne pas avoir peur. Non, il y a de la vigilance à avoir. Évidemment, c'est pas par rapport à la technologie, mais ce qu'on peut en faire. Donc, évidemment, on va parler de l'intelligence artificielle. Pas tellement par rapport à le fait que les robots vont soulever et nous tuer un jour. Peut-être qu'il y aura moins d'emplois parce qu'il y a des choses qu'on peut automatiser. Mais je suis sûre qu'il y a des solutions à ça. Et que ça sera des opportunités de profiter plus de la vie. Donc, de toute façon, c'est le cours de l'histoire. Hein. Je ne sais pas si tu connais l'origine du mot saboter. Moi, je l'ai appris d'un illustre philosophe français. Saboter, en fait, ça vient des tisserands lyonnais qui, le jour où leur métier à tisser ont été automatisés, en fait, ils ont balancé leurs sabots dans les machines pour les casser. Moi, je trouve ça génial. Mais bon, en même temps, ça va continuer comme ça. On aura plein de boulots qui vont être complètement automatisés, etc. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse. Ce que j'ai dit tout à l'heure sur Chez Eurotitre, on a développé du coup une approche client finale jusqu'à être en contact avec le client, la cliente, et discuter avec lui par le chat, mais pas uniquement, parce qu'il peut aussi nous appeler. En fait, ces gens-là, chez nous, il fallait bien les chercher quelque part. On les a cherchés en faisant quoi ? En automatisant des tâches qui n'avaient aucun intérêt et qui continuaient à faire. Donc ça, on a utilisé d'ailleurs des systèmes d'analyse automatique de mails, ce genre de choses, par des formes d'intelligence artificielle, de robots, qui a permis de faire ceci. Et en fait, ça libérait aussi du temps à des gens qui sont ravis d'avoir aussi changé le métier. À un moment donné, ça continuera. Il y a un paradigme qu'il faudra revoir. Pour l'instant, il est absolument pas prouvé. Le contraire, quand on lit la presse, c'est que l'industrialisation, la robotisation, on a plutôt pour le moment créé plus d'emplois qu'il en a tué. À un moment donné, on va falloir quand même avoir un changement de paradigme. Je reviens sur l'intelligence artificielle. C'est pas tant le peur des robots ou quoi, même si parfois, on regarde des robots on se dit, tiens, il suffit de plugger un arme et voilà. Moi, j'oublie un peu ce côté-là. Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de façons d'utiliser ces technologies-là pour répondre à des vrais problèmes de société. Je vais revenir dessus. Avant de passer à ça, l'intelligence artificielle, c'est des algorithmes qui sont, avec le machine learning, des capacités aussi à la machine, avec une grande base de données. C'est aussi ça, le digital. C'est quoi la définition de digital ? C'est aussi parce qu'aujourd'hui, on a énormément de données, donc on peut être beaucoup plus pertinent avec des algorithmes comme l'intelligence artificielle qui existe depuis avant l'ère de Internet. Ça commence à devenir intéressant parce que les données sont très, très nombreuses. Après, ça peut poser d'autres questions sur l'écologie, mais on peut revenir. Ce qui m'est fait peur, en tout cas sur lequel il faut avoir une vigilance sur l'intelligence artificielle, c'est plutôt les biais qu'il faut faire attention à ce que les données, elles sont équilibrées, que ça apporte pas des clivages, évidemment, de genre, dans les solutions, qui ça vous propose, parce que ça te propose pas des solutions simplistes, parce que tu as pas les gens qui manipulent tout ceci n'ont pas le conscience. Les gens n'ont pas envie d'être biaisés pour être biaisés. Ils veulent pas mettre des algorithmes biaisés pour avoir des machines sexistes et racistes. Il y a aucune volonté derrière. Mais c'est plus être conscient. Il y a de plus en plus d'entreprises qui mettent en place maintenant des chief ethics officer pour justement être vigilant par rapport à ça. Donc je reviens plutôt est-ce qu'il y a d'autres, on peut pas parler de la blockchain, on sait que la blockchain aujourd'hui elle va certainement raccourcir, pour l'instant on en parle beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a des vraies solutions industrielles, on n'en a pas beaucoup pour le moment, y compris dans mon métier, mais dans la banque, ça viendra je pense quand même, où la blockchain, elle permet en fait de raccourcir le lien pour tout ce qui est entre le client, et donc supprimer un petit peu des tiers de confiance comme ça peut être le cas pour les banques, les assurances, les notaires, pourquoi pas. On voit plein de cas d'usage où on peut imaginer qu'on n'a pas forcément besoin de tiers de confiance. Donc il faudra se réinventer différemment. Moi, je suis persuadée qu'en fait... je pense que l'humain aura besoin de plus en plus de facilité pour faire des activités courantes, quitte à ce qu'il y a plein de technologies derrière, et que, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, d'avoir un espèce de coach pour la finance, pour l'aider de temps en temps. Je pense que c'est bien d'avoir un vrai humain pour ça, et qui peut l'aider. Et je pense que vraiment les banques devraient travailler là-dessus. On dépasse largement le modèle de conseiller dans une agence, etc. Une autre opportunité qui n'a pas beaucoup été exploitée en France, c'est, là encore, je prends un exemple en Norvège. On a parlé de prêts bancaires immobiliers tout à l'heure. En fait, en Norvège, qu'est-ce qui se passe quand tu veux acheter un appartement ? En général, c'est le banquier qui t'aide. Il t'aide dans la recherche. Il est agent immobilier. Il t'aide dans la recherche.
Il ne faut pas aller là.
Voilà. Et puis, il te fait le montage financier. C'est du bout en bout. Moi, je pense que ce type de service, au moins, on peut automatiser, mettre de l'intelligence artificielle, les solutions technologiques, pour faire des choses qui finalement ont de moins en moins de valeur.
Moi, j'ai vu le Starling Bank à Londres, ils ont un système, un écosystème, alors que bon, ils font la banque, mais à travers un écosystème de partenaires, ils sont arrivés à faire, ils essayent d'aller vers ça. Et en écoutant l'idée de base de données, l'organisation et le besoin d'éviter les biais, j'ai écouté un autre podcast de David Rubin et il parlait du fait que l'organisation demande des jugements. Car en fait, pour organiser, il faut mettre des titres autour.
Exactement.
Et ces titres vont être femme, homme.
Oui.
Maintenant, c'est femme, homme et autre.
Et tout, autre. À toutes les diversités. Et moi, j'aime bien parce que je suis presque parler de biodiversité, en fait. C'est vraiment dans ce sens-là. Souvent, d'ailleurs, on nous dit « Oui, mais la diversité, c'est une connotation. » Moi, elle n'a aucune connotation, la diversité, justement. C'est les parcours, c'est l'âge, l'état d'esprit, c'est sa formation, c'est initial, c'est qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, et quelle est sa vie aussi à côté de l'entreprise, hein, parce que ça aussi c'est un phénomène qui viendra, hein, c'est qu'on aura plusieurs boulots en même temps, etc. Bon, c'est des choses intéressantes, on pourra passer toute la journée à discuter de tout ceci, hein, mais en tout cas, la diversité pour moi, c'est presque des personnes qui sont porteuses, de mixité. On parle beaucoup de mixité, mais en fait, on est tous mixtes.
Ben oui.
On est plein.
L'animus.
Exactement. La mixité, c'est la mixité de nous tous et toutes, de ce qu'on... Voilà.
Un père, une mère.
Mais on est hyper mixte, en fait. Mais chaque individu est mixte. Donc, ce qui est intéressant, surtout, c'est l'interdisciplinarité. Et c'est pour ça que moi, je n'ai jamais fait le choix entre les sciences humaines et les sciences exactes.
Évidemment, j'apprécie. On va terminer sur un point, Mérette, parce que tu es aussi, tu as fait d'autres activités, multiples casquettes, multiples backgrounds, mais tu as aussi lancé un projet dont tu t'en charges, qui est Ladies and Allies, Digital Ladies and Allies. Parle-nous de ce que tu fais. Et quelle est ta vision pour ça?
C'est à un moment donné dans ta vie, tu te dis, tiens, vraiment, j'ai un irritant. C'est pas possible que, alors que le monde devient technologique et le sera de plus en plus, et que le pouvoir va passer par la technologie, que dans ces moments-là, en fait, il y a moins de filles qui choisissent les voies technologiques. Avec le digital, en fait, il y a eu une décélération des femmes, des jeunes filles qui ont choisi ces filières-là. Donc là, ça peut être des explications qui sont relativement riches. On les connaît, hein, en termes de diagnostic, Internet, personal computer, à la maison, les pubs étaient très axées. Voilà, le garçon, on l'offrait au garçon. Regarde les premières publicités, même pour les premiers Macintosh d'Apple. C'est comme ça. C'est papa qui offre à son fils, etc. Avec tout l'imaginaire, avec le cinéma, qui ça, le stéréotype là encore du garçon geek derrière son poste, le hacker, etc. Le War Game. Enfin, moi aussi, j'ai vu ces films-là, voilà, à un moment donné. Moi, je suis informaticienne de formation, donc, historienne aussi, mais je ne me suis jamais posé la question, qu'est-ce qu'il faut choisir? Il faut les deux, ça a du sens. Alors qu'en fait, aujourd'hui, de plus en plus, je trouve que on est rentré dans un système où c'est devenu très linéaire. C'est un peu comme quand la société s'est un peu tendue en plus en matière de chômage, etc. On s'est imaginé que là, il faut être super, super spécialisé, super fort et suivre une filière. Voilà. Je pense que c'est tout le contraire. Parce que la richesse en nous et la richesse qu'on peut offrir à la société, c'est justement cette interdisciplinarité qu'il faut absolument cultiver. Et donc, ce coup d'énervement de voir que, alors qu'aujourd'hui, il faut quand même à minima avoir une dimension dans son parcours professionnel, dans son parcours de formation, on est allé un petit peu au-delà du marketing digital, hein, quand même, comprendre, quand on parle d'intelligence artificielle, au moins avoir suivi un petit stage. Avoir un petit peu les mains dans le cambouis, un minimum. De constater que, contrairement à ce que moi, quand j'étais en formation, quand j'étais à l'université, il y avait plein de nanas, il y avait plein de filles. Moi, j'ai commencé dans l'informatique, dans la banque, dans les années 90, il y avait plein de femmes. Ces femmes-là, d'une part, elles ne sont pas montées dans les hiérarchies, pour plein de raisons qu'on connaît aussi. Et puis la nouvelle génération, elles n'ont pas choisi cette filière. Et donc aujourd'hui, il y a moins de femmes informaticiennes. Moi, utilisant les vrais termes techniques derrière, c'est la vocation des Digital Ladies Analyze, qui aujourd'hui, au bout d'un an d'existence, réunit plus de 200 experts de digital. C'est un mouvement et une association qui mixte de base, parce qu'il y a plein de, justement, de la mixité dont je parlais tout à l'heure, garçons, filles, enfin, il y a aussi bien des hommes, pour moi, c'est allies,
bien sûr.
Qu'il faut impérativement, parce qu'on ne va pas travailler sur les solutions de mixité entre nanas, enfin, comme on ne va pas non plus travailler sur les solutions entre mecs. Parce que, fondamentalement, aujourd'hui, on ne peut pas, par rapport à tous ces enjeux technologiques, ce qu'il faut vraiment planter comme graine dans l'ADN des entreprises, moi je vais parler des entreprises, mais ça s'applique aussi à la société, c'est la graine de l'innovation. Et l'innovation, on ne génère pas de l'innovation entre pairs, des gens qui sont comme des clones, qui se ressemblent toutes et tous. C'est pas possible, ni uniquement des femmes, ni uniquement des hommes. Il faut de la diversité. La France aujourd'hui, et on parlait de qu'est-ce que c'est la French Touch. La French Touch, c'est aujourd'hui la société française, elle est multiculturelle. Elle a déjà une culture magnifique à la base. Il y a d'autres cultures qui viennent s'y ajouter. Digital Ladies Analyze, donc non seulement c'est pour accroître le nombre et la visibilité des femmes dans la tech, parce qu'il y en a quand même là, il faut aussi les rendre visibles, mais de manière plus globale, accroître la diversité dans l'innovation. Sinon, on va pas y arriver.
Sur ça, Merette, comment est-ce qu'on peut te suivre? Quels sont les meilleurs moyens de te connecter avec toi, suivre ce que tu fais?
Connecter avec moi. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai beaucoup de connexions, donc je suis très occupée. Non, mais on peut me suivre sur Twitter, on peut me suivre sur Instagram. Je suis un peu moins présente sur Twitter parce qu'à un moment donné, ça devient chronophage aussi. Je suis un peu plus dans la in real life, on va dire, dans la vraie vie. J'aime beaucoup me nourrir aussi de contacts directs avec plusieurs, aussi bien dans l'écosystème de l'éducation que les autres entreprises, que d'autres secteurs industriels, etc. Mais en tout cas, un peu me suivre, parce que ce que je trouve de formidable avec les réseaux sociaux, là aussi, je veux les prendre de manière positive, c'est le partage de la connaissance. Moi, déjà, j'ai quelque chose qui est intéressant. La connaissance, elle se partage, hein, elle ne se divise pas, elle grandit. Hein. Plus tu partages ta connaissance, plus elle grandit, en fait. C'est ça qui est extraordinaire, et ça te revient aussi. Et donc, l'intérêt de me suivre, c'est que moi, je suis généreuse comme personne. Je pense que la générosité, c'est vraiment une valeur qu'il faut rétablir et valoriser. La générosité, ça consiste à dire, voilà, tu détiens une info qui te semble pertinente, bah, tu la partages. Voilà, donc moi, je partage des infos. Dès que je capte une personne qui mérite vraiment qu'on la met en avant, ça peut être un garçon comme une fille d'ailleurs, hein, parce qu'elle est porteur d'un message, ben voilà, je la mets en avant dès que j'ai l'occasion de le faire. Et c'est l'esprit même des 200 personnes qui nous ont rejoints dans le Doutinque. En fait, on est vraiment une association et un collectif, mais uniquement basé sur de la cooptation. On veut rester fidèle à nos valeurs, qui sont la solidarité et l'entraide. C'est aussi mon slogan, tu disais tout à l'heure, hein, « Be the change ». Voilà, c'est ça en fait. Tu t'hérites sur un point dans la société aujourd'hui, bah, commence par toi-même.
Il me semble, Merette, que tu le mérites. Merci beaucoup. C'était un plaisir de t'avoir, Merette.
Bah, moi aussi, c'était un grand plaisir. Merci beaucoup.
Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man.
I like the feel of a stranger tucked around me, precipitating. To feel free, trust is the reason. Still, I won't tell the lie.
there's no use in me lying. I'm a convinced man building an urge. I'm a convinced man to live and die suburb. A convinced man in the arms of a woman. I'm a convinced man, challenge my fate. I'm a convinced.
The Jim Stroud Podcast explores the discoveries and trends forming the future of our lives. Brain-to-brain communication, robot bosses, microchip implants for workers, and artificial intelligence replacing human workers are all happening now. If you want to know what's happening next, subscribe now to the Jim Stroud Podcast.